Bonjour David.
Salut David.
On est ensemble pour parler du premier album de Silence of the Abyss qui vient de sortir il y a quelques semaines. À l'intérieur du groupe, tu chantes et tu joues de la guitare.
Alors oui, mais je suis plutôt en backing vocal. Le lead vocal, c'est Germain Marc.
Oui, premier album après la sortie d'un EP qui était sorti il y a 2 ans à peu près.
Tout à fait, il est sorti en 2008 et on l'a sorti le 13 mars 2008, le P. Et on a sorti le 13 mars 2020 l'album, date anniversaire quoi.
On va commencer par une question façon de parler un peu facile, à savoir quelle évolution est-ce que toi tu ressens dans le groupe depuis l'EP, alors mis à part le changement de line-up bien sûr, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé, tu trouves toi de ton point de vue dans le son de Silence of the Abyss?
Alors oui, que ce soit vraiment en termes de maturité, déjà on a gagné énormément en maturité en 2 ans, on ne s'attendait pas à gagner autant. On a beaucoup travaillé aussi à côté, énormément. On a enrichi tout ce qui est harmoniquement Silence of the Abyss, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de recherches dans le son, dans l'harmonie, dans les accords de guitare, dans les mélodies. Pendant 2 ans, on s'est consacré vraiment à faire évoluer de ce côté-là Silence of the Abyss. Dans le son, l'harmonie, surtout les enrichissements d'accords, trouver des nouveaux sons, mais toujours qui nous évoquent quelque chose et qui nous fassent vibrer. Et on en a jeté beaucoup à côté parce que ça ne marchait pas du tout.
Ça veut dire que par rapport aux 9 morceaux qu'on retrouve sur l'album, c'est juste une sorte de best-of de ce que vous avez composé, dans le sens où vous auriez pu éventuellement composer pour Unease and Unfairness, je dis n'importe quoi, mais genre 20 morceaux, et finalement il n'y en a que 9 sur l'album.
Non, pas du tout, non, vraiment, on est parti sur des thèmes sur 9 chansons, et on est resté sur les 9, ça s'est construit comme ça, en fait il n'y en a pas eu 12 ou 11, hein, pas du tout. Hein. Mm. On est resté vraiment sur les 9, et on a travaillé les 9. Voilà, on a été en manque de temps parce que avec le changement de line-up, surtout au niveau du chanteur, le chanteur a eu que 3 mois pour poser ses voix et ses mélodies et tout, donc ça a été vraiment court. C'est juste ça où il nous aurait fallu un peu plus de temps pour travailler, mais ça s'est bien passé en tout cas. On est plutôt contents.
9 morceaux avec des univers musicaux, alors pas différents, mais vous avez différentes ambiances quand même. Pour prendre des exemples un peu marquants, je vais parler dans un premier temps de Nothing at All, qui est avec un riff bien lourd. On sent que c'est bien pesant. Après, il y a d'autres morceaux plus calmes, on va dire, comme Sea Arcturus ou Lunar. Pour n'en citer que 2. Et après, il y a d'autres morceaux, comme par exemple God is Dead, où on a plus un son en arpège, je trouve. Et, alors, il y a toujours les gros riffs métal, bien sûr, mais je trouve que vous avez vraiment 3 univers différents.
Oui, en fait, je pense que ce qui s'est passé dessus, c'est qu'on a, dans l'album, il doit y avoir vraiment 3-4 compos qui représentent vraiment Silence of the Abyss, vraiment l'âme de Silence of the Abyss. Et je pense qu'on a tellement d'influence, tellement de choses en nous. On s'est pas posé de questions pour l'album, on s'est pas dit il faut faire telle chanson, tel tempo. Oui, des tempos, on les choisit par rapport au thème qu'on choisit. Par exemple, il y a un thème, un texte et tout, il dit sur le tempo d'être plus rapide ou autre. Mais à part les tempos, je pense qu'il fallait qu'on évacue toutes nos influences dans cet album. Et c'est pour ça que ça part un peu en sucette. Je veux dire, on va retrouver du... Il y en a qui vont nous dire on va retrouver du Machine Head d'un certain côté, mais ça ressemble pas à du Machine Head. C'est des vieilles influences qu'il fallait qu'on sorte. Bon, on l'a sorti toujours en se faisant plaisir, en fait. On s'est pas dit on va copier quelqu'un ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça a été fait, tout a été fait sincèrement, en fait. Hein. Mais je pense que, comme c'est un premier album, c'est vrai qu'on a touché un peu à tous les styles et c'est très dur de définir le style qu'on fait, du coup. On peut pas dire qu'on fait du death, on peut pas dire qu'on fait du trash, on peut pas dire, voilà. Mais je pense que, voilà, il fallait que ça sorte et on l'a fait le plus sincèrement possible, ça c'est sûr. Je pense qu'on va se retrouver plus dans un truc original et ancré dans le prochain album, je pense.
Tu le vois comme ça, en fait. Une première étape au futur son de Silence of the Abyss.
Oui, c'est un groupe super jeune, je dis que de 2017, je veux dire, on est en train de se construire, là, en fait. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Hein. C'est même le groupe pense ça. On est vraiment en train de se construire, chercher notre son, chercher notre harmonie. On s'approche, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on aimerait faire, même pour... des fois, on a envie de faire une partie de trash super speed parce qu'on kiffe, parce qu'on adore ça.
Ouais.
Et avant, on a fait des harmonies plutôt lourdes parce qu'on kiffe aussi, je veux dire. Et on le fait toujours sincèrement. Et on va se retrouver et puis avec le nouveau chanteur. Aussi, on n'a pas eu le temps de se retrouver vraiment avec le nouveau chanteur, de se poser, de se dire vraiment, voilà, ça a été fait dans le speed, dans l'urgence. Donc là, je pense que plus tard, on va retrouver nos marques et faire évoluer tout ça comme il faut.
L'organisation, justement, sur la composition, vous vous êtes organisé comment en fait? Parce que chaque groupe a un petit peu sa propre recette. Vous, vous le faites comment? Échange de fichiers, plutôt en répétition? Comment ça se passe?
En général, j'écris instrumentalement presque toute la chanson, en fait. Je crée tout ce qui est couplet, refrain, les ponts, ce qu'il faut, c'est parti. Je donne ça à Diane. Diane, après, rythmiquement, elle dit non, mais là, il faudrait mieux faire ça, ceci, cela. Après, c'est la mélodie du chant qui passe dessus. Mais par contre, ça part toujours d'un thème. La chanson part toujours d'un thème pour que ça soit cohérent. Ça peut partir, je sais pas, un truc contre la nature ou n'importe quoi, le nihilisme, j'en sais rien, les thèmes qu'on aborde. Mais ça part toujours d'un thème pour trouver le tempo qu'on veut avoir, pour trouver l'accordage qu'on voudrait avoir. Et après, on construit comme ça. Petit à petit, on sait se construire comme ça.
Ce son, justement, très très lourd et en même temps très incisif. Tu parlais d'accordage, il y a un truc spécial pour avoir le son de Silence of the Abyss?
Ah ben on a accordé un ton, voire un ton et demi plus bas que la normale, en fait, un groupe de standards de métal ou de rock, en fait. Voilà, c'est juste ça. Et après, c'est des accords un peu plus enrichis que vous pouvez retrouver les accords de métal. Ça tombe toujours avec deux notes à peu près, ce qu'on appelle les power chords. Là, c'est vrai qu'on rajoute beaucoup, beaucoup, ce qui pose beaucoup de problèmes aussi dans Silence of the Abyss.
Parce que...
Ah oui, parce que quand on enrichit trop les accords, c'est très compliqué de trouver une mélodie après derrière
Ok.
et de se placer des bonnes notes qu'il faut. Et en plus, si on doit passer un backing vocal, il n'y a plus de place.
Ouais. Je vois ce que tu
Et
veux dire.
du coup, c'est à moi de dire, oh là, oh là, là, j'en étais un peu trop. Ou on fait de la recherche harmoniquement, ce qu'on fait beaucoup parce qu'on kiffe ça et le chanteur adore ça. Travail de trouver des notes qui vont pas avec les notes. Enfin, et moi aussi, c'est à moi aussi de dire, oh là, attends, je vais enlever des notes là parce que là, ça va pas du tout, quoi. Là, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et on jongle comme ça. Et c'est vrai, plus on enrichit, plus c'est compliqué.
Et pour ce côté, je sais pas comment dire, mais vous avez des riffs quand même très très appuyés, je trouve. On pourrait presque dire que, alors ça va peut-être être un peu sacrilège, mais de dire que finalement il n'y aurait pas la batterie, façon de parler, c'est tellement appuyé au niveau des riffs que vous pourriez donner déjà en fait une bonne rythmique, j'allais dire un peu comme un vieux blues, où des fois les gars ils sont juste tout seuls, mais ça
Ah oui.
envoie.
On pourrait les reprendre en acoustique d'ailleurs.
Ouais.
Toutes les chansons de Silence of the Abyss, à la base, elles sont composées avec une vieille guitare acoustique, en fait.
Ah, ok.
Ouais. C'est-à-dire, j'ai une vieille guitare qui traîne là à la maison. Et 80% des morceaux de Silence partent de cette guitare-là, en fait. C'est-à-dire que tous les accords sont joués déjà en acoustique avant d'être mis en électrique et voilà. C'est-à-dire que toute l'harmonie, déjà, c'est comme si on composait avec un piano pour bien entendre toutes les harmonies, tout ça. Donc il est vrai que comme le départ était fait avec une guitare acoustique, on pourrait la jouer comme ça en acoustique, sans rien, quoi. Et juste un chant et guitare, ça passe nickel. Voilà.
Bon, bah, pourquoi pas en bonus sur le...
Peut-être un jour, on y a pensé déjà, j'espère, pendant le confinement, mais le
Ouais.
problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit ensemble et on ne peut pas.
Ouais.
Et enregistrer, ça sonne un peu faux, parce que, enfin, on ne s'est pas senti, du coup, on le fera après, plus tard, je pense.
C'est vrai que pour se
Enfin, être
cons...
ensemble pour le faire, en fait.
Ouais, pour
Voilà,
se...
le kiff, c'est d'être ensemble pour le faire, vraiment ensemble.
Pour se consoler, il y a éventuellement le petit Stairway to Heaven à reprendre, mais c'est pas un morceau de vous.
Non, non, c'est Rodrigo Veruela qu'on est fan, on est vraiment fan depuis pas mal de temps. On adore ce couple, quoi.
Pour rentrer un peu plus dans les morceaux, même si tu t'occupes pas des paroles, tu disais qu'il y avait un thème en fait au départ sur la composition du morceau. C'est un thème qui influence forcément les paroles à la fin?
Oui, on essaie de. C'est très rare qu'il y ait une chanson sans thème. Et après, on peut changer de thème. Par contre, c'est arrivé. C'est arrivé de dire, eh ben non, c'est quoi ce thème-là? Ça colle pas. On va changer de thème du coup à la fin. Et la chanson est toujours partie d'un thème. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un truc qu'on a vu à la télé qui nous a un peu choqué ou on va pas chercher loin. C'est peut-être un incendie qu'on a eu à côté de la maison, par exemple, qui a ravagé. C'est un truc de fou. Et ça a créé du nard, par exemple. Ça peut être un truc sur la corrida qu'on a vu et ça a créé My Serfery, par exemple.
Ok.
Voilà, ça part toujours d'un sentiment qu'on a et puis ça crée la chanson en fait. Après, JB a son sentiment à lui, et Dan a son sentiment et on part comme ça. Toujours, il faut que ça nous évoque quelque chose et que ça nous fasse vibrer le ventre en fait. Si demain on va faire une chanson et que ça ne nous fait rien, qu'on fait une chanson parce qu'il fallait faire une chanson, ça c'est jeté de suite quoi. On ne regarde même pas.
Avec des thèmes qui sont toujours j'ai pas envie de dire tristes, mais qui sont quand même graves. Et pourtant, c'est pas sombre, façon de parler. Enfin, je veux dire, c'est pas défaitiste, je trouve.
Ouais, oui, parce qu'on essaye toujours, dans ce qu'on fait, de donner une lueur d'espoir, en fait. Même quand on écrit, et je pense qu'on est comme ça, nous, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, tout le monde voit que ça se dans tous les thèmes, ce qu'on vit. Mais on essaye vraiment, surtout c'est important, je pense, de nous en tant qu'artistes et en tant que dans notre musique, surtout dans Silence of the Abyss, il y a toujours un petit côté de lueur d'espoir qui réapparaît, en fait. Et ça, on l'a fait depuis les premières chansons de l'EP jusqu'à maintenant, on laisse toujours sauf dans Nintendo, parce qu'enfin, il y a des chansons dans l'album où ça ramène à la réalité à chaque fois. Hyper Fury, c'est une chanson où c'est un taureau qui défonce tout, les toréadors, la totale, c'est lui qui gagne surtout, c'est lui qui, voilà, c'est le grand gagnant, c'est le super, mais derrière, c'est une chanson qui s'appelle Matando, qui revient à la réalité des choses, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a que ça où, voilà. Après, les gens peuvent imaginer ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, c'est fait pour ça, la musique. Hein. Là, je dis comment on a fait la chanson, mais on laisse réapparaître, en fait.
Oui, parce que sur votre site internet, il y a la possibilité d'aller lire les paroles. Il y a certains thèmes qui restent quand même assez, pas énigmatiques, mais c'est assez libre d'interprétation.
Exactement, et ça, on s'est toujours dit qu'on voulait le faire, en fait. Il faut laisser la possibilité à l'auditeur d'imaginer, la musique c'est pour imaginer, c'est pour d'écouter et d'avoir des sentiments, mais qu'il soit libre de faire ce qu'il veut.
Un mot sur l'enregistrement, ça s'est passé comment?
Alors l'enregistrement, à chaque fois, on a la chance d'avoir un petit studio, enfin c'est même un home studio, enfin je sais pas si c'est home studio ou studio, chez nous. Donc on fait toutes les prises à la maison, on fait tout chez nous, et tout ce qui est mix et mastering, on envoie ça à Brett Cadastima de Tower Studio à Montpellier, et c'est lui qui se charge de faire tout ce qui est mix mastering. Voilà, on est parti dans l'optique de pas faire un album compressé, trigué, super masterisé, en fait. On voulait qu'il respire quand même l'album un petit peu. C'est-à-dire que les batteries ne sont pas triées, les batteries sont jouées, il n'y a pas de tri, soit dans les guitares ou les basses ou le chant. Ce qu'on peut faire sur scène, c'est ce qu'on a fait sur l'album, en fait. Voilà.
Rester authentique et, comme tu disais, voilà, se faire plaisir, rester le plus personnel possible, sans utiliser, comme certains font, justement, des batteries programmées ou...
Exactement, parce que en fait, on a la chance d'avoir une batteuse vraiment qui code sa batterie, qui joue vraiment... Et elle n'a pas besoin d'artifice autour de sa batterie, donc on s'est dit ben, pourquoi déjà une fille qui est bon, il n'y a pas de une femme, mais déjà il n'y a pas beaucoup de femmes qui puissent jouer comme ça. Déjà chez les hommes ils trient tout, c'est beaucoup. Donc une femme qui joue comme ça avec des son micro et tout, ben, il faut en profiter. Il faut vraiment toujours on essaie de rester le plus naturel possible. On essaie vraiment d'ouvrir et qu'on ouvre en live, en studio, voilà, il n'y a pas de surprise.
Un souvenir particulier de cet enregistrement, même si c'est en home studio, donc vous avez peut-être un peu moins de pression que si vous étiez chez quelqu'un d'extérieur. Pour autant, comme tu disais, il y avait un certain timing à respecter.
Ben ouais, bon, déjà on n'a pas de timing. Ça, on a quand même un timing parce qu'on se donne toujours des dates et que ça soit fini ça à temps. C'est obligé pour qu'un projet avance. Il faut toujours avoir un planning avec nous. C'est obligatoire. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus libre quand même de dire, bon, écoute, là, ça foire, je suis pas, on reprendra demain, quoi. Ça va, on est dans les temps. Ça, c'est vrai qu'on peut faire ça. Mais le studio reste complètement, que ce soit à la maison ou ailleurs, reste quand même compliqué, hein. Je veux dire, si on veut faire vraiment mettre notre âme dedans, l'intention, tout ça, eh bien, qu'on soit là ou dans le plus gros studio du monde, c'est pareil, en fait, hein, je pense. Hein. C'est vraiment à nous de dégager. Et ça reste compliqué, c'est une épreuve, le studio, pour nous, quand même. Hein. C'est pas facile, quand même.
Un mot sur la pochette?
Alors la pochette, elle a été faite par Eric Hirzak, sa boîte s'appelle Canyon Graphics. Et en fait, j'avais vu sur Instagram, comme ça, j'ai vu qu'il faisait des pochettes, mais ça remonte il y a un an et demi ou deux. Et j'avais kiffé son travail, quoi. J'ai dit, ouais, c'est super ce qu'il fait, quoi, vraiment. Et à un moment donné, il est arrivé la question de dire, bah, il nous faut une pochette pour l'album, quoi. Et j'ai dit, regardez, moi j'ai vu ce gars-là sur Instagram, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait et tout. Et on a regardé tout ça, on lui a dit, j'ai vu une pochette qui nous plaisait, qui devait être là, le front. Et en fait, on lui a acheté, et en fait, on l'a mis en bac. Et on s'est dit, écoute, si on te dit un thème, par exemple, le post-apocalyptique, la maltraitance, tout ça, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose? Et de suite, il nous a sorti cette pochette-là. Il a mis 3 ou 4 jours pour nous la faire, et oui. Il nous a sorti ça, et on a dit, ben, c'est bon, ok, ça marche. Et on lui a pris cette pochette-là. C'est quelqu'un de super, et du coup, c'est même devenu un ami derrière, parce que c'est une rencontre incroyable avec lui. C'était vraiment... je sais pas définir, c'est des rencontres, voilà, comme on a dans le milieu. Des fois ça match, des fois ça match pas. Là, c'était super, quoi.
Est-ce qu'il faut écouter l'album dans l'ordre, c'est-à-dire est-ce qu'il faut respecter le track listing?
Non, c'est pas un album avec une histoire, je veux dire. On peut l'écouter, ça a été fait comme ça. Je pense que, personnellement, si on l'écoute dans cet ordre-là, on aura plus d'émotion de l'écouter là, ouais. Parce qu'il y a les temps de repos au milieu, que ce soit le matin d'eau, si Arthurus, ça nous laisse le temps de nous reposer un petit peu. Mais on peut l'écouter dans... Je pense, personnellement, je pense que c'est mieux de l'écouter dans l'ordre, je pense. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, ce qui est bizarre, les retours qu'on a, c'est j'adore ce titre-là, j'adore ce titre-là, j'adore ce titre-là, c'est jamais le même. Il n'y a pas un album, il n'y a pas une chanson qui fait qu'il va avoir un pourcentage dessus. Voilà. Non, là, ça part dans tous les sens. Tous les jours, on a une nouvelle chanson différente.
Vous avez choisi de faire une lyrics vidéo sur Nothing at All.
Oui.
Pourquoi sur ce deuxième morceau de l'album?
On avait retrouvé que c'était ce qui représentait le plus hein, le groupe, ou l'album, qui avait un peu beaucoup de tempos différents dedans, que c'était lourd, mais qu'à la fin ça devenait dédoublé, que le chant était... ouais, c'était représentatif de l'album, on a trouvé ça. Mais le problème, c'est qu'on devait faire d'autres clips, et du coup c'est tombé en plein Covid, et on attend. Voilà, du coup, hein, mais il va se presser pour sortir un truc vite fait, et puis voilà. Je pense que ouais, c'est le plus représentatif de l'album.
Donc après, pour d'autres projets, d'autres vidéos, faudra du coup attendre, alors peut-être après le 11 mai, on espère tous pouvoir reprendre au moins Bouge Vie après, mais rien n'est moins sûr.
C'est ça, déjà l'album est sorti le 13 mars, donc ça tombait presque pile poil avec le Covid,
ouais.
C'est nickel dans le timing, quoi. C'était prévu, je crois, entre le 15 et le 30 mars, le deuxième clip, quoi, le tournage. Donc, et puis dedans, il y avait des showcases, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une télévision à enregistrer aussi. Pas mal de choses, mais bon, c'est reporté, hein. Voilà, c'est juste reporté, c'est tombé comme ça, voilà.
Justement, vous profitez du confinement pour faire quoi? Pour travailler vos sets en vue de sessions live? Pour déjà être en composition pour d'autres chansons? Comment vous vous organisez?
Par rapport à ça, par rapport au Covid-19, moi, j'avoue que pendant les 15 premiers jours, déjà, je savais pas où j'étais. Donc, ce truc anxiogène m'a coupé les jambes, que ce soit en répétition, en créativité. J'ai mis un temps fou pour me remettre de ça, en fait. Ça agit sur moi, je pensais pas pourtant. Mais là, c'est vrai que comme on a la chance d'avoir la batterie à la maison et la guitare, c'est vrai que depuis que ça va mieux, là, on fait des répétitions. Mais j'avoue qu'en tant que créativité, eh ben, j'y suis pas, quoi. Comme le fait que j'arrive pas à écouter de musique, c'est identique.
Plus de 15 jours à tenir.
Ouais. C'est vivement, hein. Enfin, je sais pas. Il y en a qui vivent mieux que d'autres, moi, c'est pas top, quoi.
On va arriver à notre dernière question. Je vais te proposer soit à boire, soit à manger. Je vais te proposer 5 choses et tu peux en choisir une parmi les 5.
Oula.
C'est-à-dire que tu peux prendre une part de pizza avec les Tortues Ninja.
Ouais.
Un donuts avec Homer Simpson. Une bière au beurre avec Harry Potter. Un lambas avec Legolas ou sinon un onigiri avec Sangoku, tu prendrais quoi?
Écoute, je crois que j'adore la pizza et j'aime bien les tortues ninja.
Ouais.
Je crois que, ouais.
Souvenir d'enfance.
Ça va bien, ouais, je vais bien kiffer avec eux.
Quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour conclure?
Merci surtout à toi pour ton interview et puis merci aux gens qui écoutent cette Zabis. On est des retours qu'on a, on est vraiment très très contents, on les remercie vraiment énormément. Franchement, on s'attendait pas à ça, mais on les remercie vraiment, vraiment beaucoup.
Merci David.
Merci à toi. Je te remercie beaucoup.